Je suis très content de reprendre mon cours après 2 ans. J'ai annoncé comme un cours sur l'argenterie de prestige en Iran sassanide et en Asie centrale, un mode d'expression politique et idéologique. Alors, ce cours, je l'ai prévu pour cette année, mais je m'aperçois en le préparant qu'il y a beaucoup, encore plus de matière que je ne pensais. Et donc, probablement, ce sera continué l'année prochaine. C'est un sujet dont j'ai été amené à beaucoup m'occuper ces temps derniers à cause de nouvelles découvertes d'objets, nouvelles interprétations. J'ai fait des articles qui sont sous presse en collaboration avec Samra Azarnouch et Anka Dan. Et en fait, ça va continuer. Donc, j'ai de quoi nourrir la réflexion. Alors... comme vous savez, les premières années de mon enseignement, j'ai étudié les phases du développement urbain en Asie centrale. Il y a 3 ans, j'ai étudié les colonies sogdiennes en Chine. Il y a 2 ans, c'était les bouleversements de la conquête arabe. Alors, bon, il peut paraître un peu étrange que je me recentre sur un sujet... qui paraît un peu désuet, relevé d'une histoire de l'art à l'ancienne, c'est-à-dire une histoire de l'art qui s'attache à des belles pièces de collection, presque toujours sans contexte archéologique. Mais il faut tout de suite se rendre compte que ces vases étaient à peu près tout sauf de la vaisselle. Leur fonction principale, comme d'ailleurs c'était le cas aussi à Byzance, c'était de porter et de disséminer des messages symboliques, au premier rang desquels l'image royale. Plusieurs indices suggèrent que dans cette fonction de propagande royale, ils étaient un vecteur important et peut-être même le principal. Par ailleurs, dans certains cas, on peut tenter de déchiffrer les motifs comme le reflet d'œuvres écrites ou orales perdues relevant de la culture de cour. La culture de cour sassanide, la culture écrite littéraire de cour sassanide, est presque entièrement perdue. Il subsiste 2 traités en Pélévi, le roman d'Ardashir et le texte sur Khosrow et son page qu'a réédité Samra. Et puis, évidemment, beaucoup de choses qui sont passées dans la littérature arabe. Mais beaucoup, on s'aperçoit en étudiant les plats que parfois... ils sont le seul témoin de certaines légendes, de certains mythes dont nous n'avons pas d'autres indices. Alors tout ça justifie que ce sujet va nous occuper pendant 1 an, peut-être 2. Alors quelques réflexions préliminaires. Il y a, si on compare l'art de cour sassanide et l'art de cour d'Asie centrale, il y a un contraste partiel. Pour l'art sassanide, l'art officiel sassanide, on a principalement les reliefs rupestres, la première catégorie qui a été connue et étudiée. On a des décors de stuc et on a l'argenterie. La peinture murale sassanide, évidemment, elle a existé, mais elle est perdue. Ou du moins, elle restera perdue tant qu'on ne fouillera pas des architectures en briques crues. C'est Marchak qui m'avait fait la remarque. Dans l'art monumental sassanide, on a surtout fouillé des architectures de pierre. Sur les architectures de pierre, les peintures ne se conservent pas. Le jour où on va faire comme en Asie centrale et fouiller de la brique crue, des palais en brique crue, des maisons en brique crue, on trouvera des peintures. Alors, en Asie centrale, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas de reliefs rupestres royaux. Ou plutôt, on en a un, le relief de Raghi Bibi en Afghanistan, que j'ai étudié il y a 16 ans. Alors, on a beaucoup de peinture, c'est surtout de la peinture, et puis on a de l'argenterie, tout autant d'argenterie que dans l'Iran sassanide. Les deux argenteries ont gardé des spécificités, mais elles se sont constamment influencées l'une l'autre et elles doivent être traitées ensemble. L'une et l'autre, celle d'Iran sassanide, celle d'Asie centrale, sont les héritières d'un héritage classique, mais plutôt romain du côté des Sassanides et plutôt grec du côté de l'Asie centrale. Il y a ces deux argenteries diffère, on va s'en apercevoir très vite, par les structures politiques qu'elle reflète. En Iran sassanide, après une première période où d'autres personnages que le roi accèdent au grand plat de prestige, à partir du IVe siècle, on n'a plus que le roi des rois tout seul. En Asie centrale, le roi n'est jamais seul. Il y a toujours une pluralité, il est toujours avec d'autres, avec qui il chasse, avec qui il fait des banquets. On voit aussi beaucoup de souverains locaux qui commandent des plats. On découvre une structure, c'est le reflet d'une structure politique beaucoup plus décentralisée qui n'a jamais connu, en réalité, le phénomène du roi des rois. Alors, un trait commun entre l'Argenterie sassanide et l'Argenterie d'Asie centrale, c'est que l'une et l'autre se sont exportées massivement par toutes sortes de canaux différents, et les deux se sont exportées beaucoup en direction surtout de la steppe et de la Chine. C'est surtout là, d'ailleurs, qu'on trouve la plupart des exemplaires. En fait, l'Argenterie est probablement le témoin le plus éloquent qui subsiste des contacts interculturels entre Iran et Asie centrale et au-delà même de ces deux sphères. Alors, je cite Boris Marchak. Aucune autre source ne témoigne à ce point du caractère compact du monde médiéval, depuis l'Europe occidentale jusqu'à la Chine, depuis la région de la Kama dans l'Oural jusqu'à l'Inde. Survolons la bibliographie. On a d'abord eu des grands catalogues, et les premiers grands catalogues ont été dus à des savants du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. On avait des riches collections à Paris, on en avait au British Museum, mais les premiers grands catalogues systématiques ont été dus au musée de l'Ermitage. C'est là où était la principale collection. Et énorme avantage de l'Ermitage par rapport à tous les autres musées, c'est une collection où on est sûr qu'il n'y a pas de faux. Parce que les objets ont été trouvés dans des conditions contrôlées, principalement une très grande partie dans des tombes dans le Caucase, dans l'Oural. On a pratiquement aucun risque d'avoir des faux. Alors, le premier catalogue, c'est l'album de Smirnov, qui était conservateur à l'Ermitage. J'ai traduit en français les titres russes. L'Argenterie orientale, Saint-Pétersbourg, 1909. Donc, vous voyez, ils ont publié des catalogues dès le moment où on a pu publier des photos. Alors, il a été continué par Orbeli et Trevor, Orfèvrerie sassanide, Leningrad, 1935. Et c'était le bon temps, c'est en français. Voilà, à cette époque, les savants de l'Ermitage n'hésitaient pas à publier en français. Et cette tradition... Alors, Trevor a continué avec « Monuments de l'art gréco-bactrien », là, c'est en russe, un livre... en fait, le titre est un peu trompeur, même très trompeur, parce que elle inclut dans ce catalogue toute l'argenterie qui a un caractère hellénisant, y compris des œuvres, une majorité d'œuvres, dont on sait maintenant qu'en réalité, elles sont beaucoup plus tardives, y compris des œuvres qui datent du 4e, 5e, 6e siècle. Alors, cette grande tradition de l'Ermitage a été poursuivie par Vladimir Loukonin, élève de Trevor, et Trevor et Loukonin, tous les deux après leur mort, sous leur deux noms, a été publié un très beau livre, Argenterie sassanide, et pour la première fois, ce livre comporte des radiographies et des analyses physiques. Et c'est vraiment on peut vraiment suivre la lignée des grands savants de l'Ermitage. Alors, à côté de cela, on a eu, à partir de 1967, voilà, la première exposition internationale sur cette argenterie s'est tenue au Musée d'art de l'Université du Michigan en 1967, avec ce catalogue. Pas luxueux, c'est tout noir et blanc, c'est vraiment un travail pionnier. Et ce catalogue comporte une remarquable introduction par Oleg Grabar, qui en fait est en principe un historien de l'art islamique. Était, puisqu'il nous a malheureusement quittés il y a un certain temps. Pour l'anecdote, c'était le fils du grand André Grabar, qui était le professeur d'art byzantin et paléo-chrétien ici au Collège de France. Mais Oleg était à Harvard. Et Grabar, c'est vraiment le premier qui est appelé à dépasser les publications d'objets individuels et à chercher des structures d'ensemble, ce qu'il appelle des modèles théoriques, sans référer spécifiquement à tel ou tel objet. Il y avait eu en fait un premier essai très remarquable par Kurt Erdmann en 1936, les plats de chasse sassanides, où il avait cherché une systématisation. Et Grabar a appelé à continuer. Alors, dans l'essai de Grabar, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont caduques parce que, principalement, cette exposition, dans le cadre de laquelle il l'a publiée, était encombrée de beaucoup d'objets faux ou post-sassanides, qui ensuite ne sont d'ailleurs, dont on n'a plus entendu parler ensuite. Et malheureusement, dans certains cas, Grabar fondait ses analyses sur ces objets-là. Malgré tout, ça reste un texte peu connu, mais extraordinairement stimulant. Assez marginal dans l'œuvre de Grabar, puisqu'il est surtout celui qui a fouillé les châteaux omaïades en Syrie. C'est vraiment un très beau travail. Alors, plus récent et peu connu aussi, je dois la référence à Samra, mais très intéressant. Non, je dois la référence à Ankadan. Un essai de Jocelyn Toynbee et Painter, Silver Picture of Late Antiquity. Un gros article où est en, l'originalité, l'intérêt, c'est qu'ils traitent ensemble l'argenterie byzantine et l'argenterie sassanide. Voilà. Donc, c'est une approche très interfécondante. Alors, pour l'anecdote, Jocelyn Toynbee, on connaît très bien le grand historien Toynbee, celui qui a développer le concept de challenge and response, un historien global, un pionnier de l'histoire globale dans l'après-guerre en Angleterre, et Jocelyn Toynbee était sa sœur. Et c'était une grande, grande archéologue et historienne de l'art. Alors, à partir des années 80, on a eu les moyens de distinguer méthodiquement des écoles. Ça a commencé par le livre encore absolument fondamental. On ne peut rien faire sur l'argenterie sassanide si on n'a pas ce livre sous la main. C'est le livre de Harper, Silver Vessels of the Sassanian Period, volume 1, Royal Imagery. Le volume 2 devait être sur les plats non royaux et il n'a pas été écrit et il ne sera pas écrit puisque Prudence Harper est une dame aujourd'hui très âgée. Vous voyez, il y a un co-auteur, Peter Meyers, qui est un chimiste. Et donc là, vraiment, systématiquement, le livre a utilisé les procédures d'approche chimique. Ce livre est extrêmement rigoureux dans sa méthode, c'est-à-dire qu'il est très sélectif sur le choix des objets. L'idée, c'est qu'on détermine par les approches physiques quels sont les critères qui permettent de reconnaître vraiment des objets authentiquement sassanides. Et ensuite, par analogie, donc, on étend l'attribution. Mais je peux vous dire que dans ce catalogue, il n'y a pas un seul objet suspect. C'est la première fois que ça arrivait dans l'histoire des études sur l'argenterie sassanide. Alors Harper a continué a publié là-dessus son dernier livre, In Search of a Cultural Identity, paru en 2006. Un excellent essai sur l'art sassanide. vraiment tout à fait, avec des approches nouvelles, c'est tout à fait remarquable. Alors, ensuite, avec le deuxième grand initiateur de l'étude moderne des places sassanides et d'Asie centrale, fondée sur une méthodologie rigoureuse d'attribution des écoles, c'est Boris Marchak, qui, contrairement à Harper, n'est malheureusement plus de ce monde, quelqu'un dont j'étais très proche et que je considère comme l'un de mes maîtres. Il était conservateur à l'Ermitage et il a d'abord... en fait, son travail, comme vous savez, il est surtout connu comme le fouilleur de la ville de Penjikent. Il a beaucoup travaillé sur la peinture murale. Marchak, il a travaillé sur tout. Non. Mais il est tombé sur le domaine de l'argenterie, un peu par hasard. En 1963, on a trouvé, à côté de Samarcande, un site qui s'appelle Chiliek, un trésor qui avait été enfoui au même moment, à peu près vers 600. On a une bonne date archéologique. Ça, c'est la seule fois que c'est arrivé dans toute l'histoire de l'argenterie sassanide, où il y avait en même temps des plats sassanides, des plats heftalites locaux, des bols qui n'étaient pas particulièrement décorés, mais en vaisselle d'argent. On avait une coupe chronologique. Et ça a vraiment permis de faire des grandes avancées. Alors, il a publié cette trouvaille et ensuite, il a élargi ses recherches à, en réalité, pas seulement l'argenterie iranienne, pas seulement l'argenterie d'Asie centrale. Dans ce livre, vous avez aussi l'argenterie bulgare, l'argenterie hongroise du Moyen-Âge, l'argenterie des croisés. Mais ce n'est pas du tout arbitraire. Bon, d'une part, il s'appuyait sur les riches collections de l'Ermitage. Et puis, il a montré que l'argenterie sassanide et l'argenterie d'Asie centrale ont été à l'origine de presque tout. Voilà. Et qu'on voit très bien des filiations qui s'observent, y compris avec l'argenterie médiévale occidentale. Voilà, son dernier grand essai, en 1998, dans ce catalogue, Art and Archaeology of Ancient Persia, The Decoration of Some Late Sassanian Silver Vessels and its Subject Matter, où il renouvelle son approche en l'élargissant, en s'intéressant à une catégorie d'objets qui ne sont pas royaux, qui semblent produits pour des sortes de classes moyennes émergentes à la fin de l'Empire sassanide, aussi la petite aristocratie qui va ensuite donner ce qu'en Iran on appellera les Derkhan. Les seigneurs locaux qui vont avoir une énorme influence dans la transmission de l'héritage sassanide. Ferdowsi était un Derkhan. Et il y a toutes sortes de nouveautés très intéressantes dans cet essai. Alors, ce qu'on a eu par la suite, c'est de très très beaux catalogues d'expositions où les organisateurs ont eu l'intelligence de demander les notices aux plus grands spécialistes. Donc, évidemment, là-dedans, vous avez des notices par Marchak, par Harper, par Loukonin. Et parfois, des notices où ils modifient ou améliorent leur point de vue sur des objets dont ils avaient déjà parlé dans des écrits précédents. Donc, il faut toujours aller chercher dans ces catalogues quelle était la dernière opinion de Harper, quelle était la dernière opinion de Marchak sur tel ou tel objet. Alors, on a eu cette exposition en 1993, au musée d'art et d'histoire de Bruxelles, Splendeur des Sassanides, où il n'y a pas que l'argenterie. Malheureusement, l'objet qui illustre la couverture est considéré aujourd'hui comme très suspect. Et puis, on a eu cette belle exposition au musée Cernouchi, en 2006, avec beaucoup d'objets de l'Ermitage, les Perses sassanides, face d'un empire oublié. Si on veut prendre une vue d'ensemble de ce répertoire, rapidement, avec des magnifiques objets, il faut prendre ces deux catalogues. Il faut les parcourir. Et là, vraiment, on saisit le répertoire dans son ensemble. Alors, bon, il faut ça, depuis ces grands catalogues, on a surtout des études ponctuelles par des objets qui surgissent et qui, malheureusement, presque toujours, surgissent dans les fouilles clandestines ou bien des vieilles collections qui soudainement reviennent à la lumière, des objets qui avaient été négligés ou cachés, comme ces objets évidemment deviennent de plus en plus à la mode, ça les fait sortir des greniers et du coup ça met de nouveaux objets en circulation. Il faut savoir que aucun des catalogues que j'ai montrés, aucun des grands répertoires, Marchak, Harper, l'Ermitage, les grandes expositions, n'était exhaustif à sa date. Jamais personne n'a pu avoir l'ambition de couvrir le tout. Et alors évidemment, maintenant, le répertoire n'arrête pas d'augmenter puisque chaque année, au bas mot, on a connaissance de 5, 6, voire davantage de nouveaux plats. C'est principalement la conséquence, il ne faut pas se leurrer, des fouilles clandestines en Afghanistan. Alors, ce qui serait très utile d'avoir maintenant, avec les outils méthodologiques qu'on a, c'est une database évolutive, où là, on pourrait mettre tout ce qui est publié, et au fur et à mesure, tout ce qu'on voit sortir sur Internet, dans des catalogues de vente, etc. Alors, bon, pour réaliser ce projet, j'ai déposé, Samra Azarnouch a déposé là récemment un projet d'ANR auquel je suis associé avec Anka Dan, avec Pavel Lourier à l'Ermitage, avec des savants iraniens, avec Matthew Canepa aux États-Unis. Nous pensons que le projet est très bon et très justifié. Ça ne garantit pas qu'il va passer l'examen à l'ANR. Mais voilà, il faut essayer. Je l'ai déjà dit, on n'a jamais trouvé un seul de ces objets dans son contexte d'utilisation d'origine. On n'en a jamais trouvé dans un temple. On n'en a jamais trouvé dans une maison. Ou plutôt voilà, à Chiliek, mais c'était dans une cache. On n'en a jamais trouvé dans une tombe iranienne. De toute façon, quelle tombe iranienne ? Parce que c'est pas dans des ossuaires ou des cavités à ossements qu'on va trouver des plats. On en a dans des tombes, mais dans des tombes de populations forestières de l'Oural. Où elles avaient fini par aboutir. Donc, jamais en contexte d'origine. Les textes parlent. On a des textes qui mentionnent ce genre d'objet, mais bon, on a du mal à extraire des informations vraiment très précises sur la manière dont ils étaient commandés ou utilisés. On a tout de même un document sur eux. Certaines des mentions indiquent nettement une utilisation cérémonielle ou même magique, divinatoire. Alors on a par exemple, ça c'est un document extraordinaire, au IIe siècle avant notre ère, ce bol d'argent qui a été trouvé en Sibérie ou en Oural, je ne sais plus, à Issakovka, en Sibérie je crois. Alors c'est un bol d'argent achéménide, ou de tradition achéménide, probablement achéménide. Mais il porte une inscription en chorasmien. C'est même la plus ancienne le plus ancien texte datable qu'on ait dans la langue chorasmienne. Et d'après Lifshitz qui l'a publié, ça a l'air de tourner autour du IIe siècle avant notre ère. Le plat est probablement encore plus ancien. Et le texte est extrêmement intéressant parce qu'on parle, voilà, il identifie l'objet. Bol de cérémonie. Tasht, le bol, witikan de cérémonie, qui vient, donc qui a été offert en présent par Varzavan, fils de Tahumak. Et maintenant, voici. Au seigneur roi Amurjman, fils du roi Wardan, ce bol a été offert le 3 Frawardin. Qui est le roi Amurjman ? Évidemment, c'est le roi du Khwarezm. Ça correspond, IIe siècle avant Jésus-Christ, ça correspond au moment où on voit apparaître au Khwarezm la première capitale identifiée archéologiquement. C'est Akshakhankala, dont j'ai été amené à beaucoup parler il y a quelques années à mon cours sur le Khwarezm. Et donc c'est le moment où on voit la royauté du Khwarezm qui se stabilise, qui est une cour, une résidence peut-être pas permanente, mais en tout cas fixe, etc. En plus, Amurjan, ça c'est Pavel Lourier qui a trouvé ça, semble être... C'est un nom qui ressemble, qui comporte les mêmes éléments que le nom du roi Pharasmanès, qui est décrit par les historiens d'Alexandre comme roi du Khwarezm, qui a envoyé une ambassade, ou qui est même allé en personne voir Alexandre à Samarcande. Et donc, on a l'impression qu'on saisit une dynastie. Ce serait probablement la même famille. Alors, le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'évidemment, ce bol est décrit comme un bol de cérémonie et qu'il est offert le 3 Frawardin, c'est-à-dire au moment du Nowruz. Le cycle du Nowruz se déroule sur 6 jours et le 3, en principe, c'est le jour où le roi recevait les ambassadeurs et les chefs de l'armée. Donc là, on a véritablement une mention d'utilisation cérémonielle. Alors, par ailleurs, si on va chercher dans la littérature persane, le Shahnameh, etc., on voit qu'il y a des mentions d'une utilisation divinatoire. Alors, on a la coupe de Kheikhosro, Jam et Jahan Nema, la coupe qui permet de voir le monde. Quand on regarde dedans, on voit ce qui se passe dans le monde et ça permet aussi de prédire l'avenir. C'est la coupe qui permet à Kheikhosro de découvrir que son compagnon Bijan est prisonnier dans un puits. Bon, voilà, c'est ce genre de mention. Dans la littérature persane, la poésie persane ultérieure, cette coupe divinatoire de Kheikhosro, en fait, devient la coupe de Jamshid. L'un des premiers grands rois. Alors, par ailleurs, dans le Shahnameh, on a la mention d'une coupe inépuisable, qui est toujours pleine. Et c'est la coupe où le roi, que le roi indien Kaïd, qui est en fait un mot probablement sogdien, peut-être avestique, qui veut dire sorcier, hein, présente à Alexandre. La coupe qui ne se vide jamais. Alors ça, c'est un thème qu'on trouve ailleurs. Par exemple, dans la littérature des Ossètes, on a la chope de bière qui est toujours pleine, qui se remplit toujours quand le héros raconte ses exploits guerriers, quand les exploits sont vrais. Mais quand il ment, c'est comme le nez de Pinocchio, la coupe se vide. Voilà, donc c'est un thème qu'on trouve dans plusieurs contextes. Voilà, donc ces données légendaires, évidemment... ça ne nous dit pas grand-chose sur l'utilisation de ces vases. Alors, on voit qu'il y a la même problématique du côté byzantin. Dans l'essai de Toynbee, que j'ai cité tout à l'heure, Toynbee finit par conclure que le seul usage effectif, pratique, qu'on peut trouver pour certains plats, c'est dans la liturgie chrétienne. Ce sont des patères qui portent des scènes de l'Eucharistie et qu'on a trouvées dans des trésors d'église. Alors là, oui, on peut penser que c'était effectivement utilisé. Bon. Alors, en Sogdiane, on a quand même quelques indices iconographiques. Sur les grands panneaux de bois de Kafirkala, près de Samarcande, 6e siècle, que nous espérons tous voir à Paris à l'exposition du Louvre, si elle peut vraiment se tenir en avril 2022, et dont j'ai été amené à parler souvent, on voit que ces dignitaires qui vont adorer la déesse Nana sur son lion portent des vases. Alors, dans certains cas, on a l'impression, comme ici, que le vase est lui-même l'offrande. Et dans certains cas, le vase contient l'offrande. Alors ici, ça peut être des fruits, ça peut être des perles. Voilà, là, on amène visiblement un plat, et ce plat ne contient rien. Donc on peut là penser que l'objet est lui-même l'offrande à la divinité. Mais alors, on a aussi des indications que des coupes en or décorées de scènes, au moins à l'extérieur, servaient dans des banquets. Parce qu'on a ces peintures à Penjiken, notamment celle-ci, qui représente probablement des marchands, et vous voyez très bien que celui-là tient une cruche en or, peut-être en bronze, mais enfin, peut-être plutôt en or, avec quelque chose de dessiné dessus, et lui tient un type de coupe qui est bien connue, c'est ce qu'on appelle la coupe multilobée, on l'a aussi en Iran sassanide, avec des espèces de lobes sur un pied. Et donc là, c'est dans le cadre d'un banquet. Et ils boivent véritablement dans ce genre d'objet. Alors, très bien, bon, on comprend, on pouvait utiliser les plats, les coupes qui étaient décorées à l'extérieur, mais dans certains cas, le dessin est à l'intérieur. Alors, est-ce que c'était aussi utilisé ? On a un témoignage assez, vraiment très intéressant qui a été beaucoup commenté, qui est celui enfin, du grand poète Abu Nuwas, poète arabe, qui était d'ailleurs partiellement d'origine persane, mais qui était avant tout un familier de la cour abbasside. Hein. C'est un contemporain d'Harun al-Rachid et ses premiers successeurs. Alors, il est surtout il est connu par ses éloges du vin. Hein. C'est un poète bachique, hédoniste, qui célèbre aussi, qui célèbre les amours bisexuels, on va dire, voilà, d'où l'intérêt que, le très grand intérêt que lui a porté Vincent Monteil, qui a publié une anthologie de ses traductions. Et dans un poème, Abu Nuwas raconte, donc ça se passe au début du IXe siècle, un pique-nique. Pas n'importe où, hein, dans les ruines de Ctésiphon, donc l'ancienne capitale sassanide, et il accompagne une famille d'amis qui sont les Banu Naobart. Les Banu Naobart, c'est une famille de merves. Alors là encore, on est dans un substrat, dans un milieu très persan. C'est une famille de merves qui, au départ, étaient des astrologues. Ils ont contribué à la fondation de Bagdad. Et ensuite, ils sont devenus les bibliothécaires du calife. Voilà. Et que nous dit ce poème ? Alors, c'est un ami à moi, Benoît Deslandes, qui a refait la traduction. Samra a vérifié soigneusement les transcriptions. Nous demeurâmes ici un jour, puis un autre, puis un troisième, et encore un jour. Après quoi, au cinquième, nous partîmes. Ouais, c'est un long pique-nique. Le vin circulait parmi nous dans une coupe en or que des Perses avaient orné de toutes sortes de figures. En son fond apparaissait Kesra, et sur ses côtés, des antilopes, que poursuivaient les cavaliers avec leurs arcs. Le vin y était versé jusqu'aux basques relevées à leur taille, et l'eau à hauteur de leur couvre-chef. C'est-à-dire le vin est versé jusqu'au niveau des pans de la veste qui sont retroussés dans la ceinture, et l'eau est ajouté pour arriver au niveau de la coiffure. Alors, qu'est-ce que veut dire cette image bizarre ? En fait, le grand arabisant Ignaty Kratchkovsky, dans un essai paru en 1928 sur un absolument remarquable, jamais traduit, c'est en russe, sur les objets sassanides décrits dans la littérature arabe, il a compris ce que veut dire cette image. En fait, il a compris. Les vieux commentateurs arabes avaient déjà compris. Il y a d'abord le vin. Après, on le coupe avec de l'eau. On ne buvait jamais le vin pur. Le vin arrive au niveau de la ceinture. Bon. Et quand on rajoute de l'eau, ça arrive au niveau de la tête. Il n'y a pas beaucoup de distance. Ça veut dire que le vin est bu. Le 12 degré 5 est bu presque pur. Et que quand on rajoute de l'eau, ça n'apporte pas beaucoup, en réalité. Et ce qu'a très bien vu Kratchkovski, dit, mais ça, cet objet, l'auteur l'a vu. on peut pas décrire quelque chose comme ça si on n'a pas bu dans ce type d'objet. Et je cite Kraczkowski, prophétique, « Jusqu'à présent, on ne connaît pas d'objet sassanide identique à celui décrit. Mais il ne faut pas oublier que presque tous les plats et coupes sassanides connus sont des unikas, des objets uniques, et il est tout à fait vraisemblable que quelque chose d'analogue sera un jour découvert. » Eh bien, il avait raison. En 2015, dans un catalogue, le catalogue de la collection Wilburn, a été publié un plat. Je serai amené à revenir sur ce plat. Il est probablement exécuté. Il est de tradition tout à fait sassanide, en 3e siècle, et est probablement exécuté à l'Est, en Bactriane. Et ça décrit exactement, presque exactement, ce que Abu Nuwas a eu en main. Vous voyez, le décor est dans le creux. Hein, il est à l'intérieur du plat. Donc si on verse du vin, ça recouvre tout ça. Et vous voyez, quand le vin arrive au niveau... Voilà, le vin est pur. Il arrive ici, au niveau de la ceinture, là où ils ont... et c'est bien une scène de chasse, comme dit Abu Nuwas. Alors, on ne chasse pas que des antilopes, il y a des panthères. Mais enfin, antilopes... Ce qu'on traduit antilope dans un poème arabe, ce n'est pas forcément des antilopes. On traduit antilope parce que... les poètes arabes avaient tendance à parler de la faune d'Arabie. Ça ne veut pas dire que ce soit vraiment des antilopes. En l'occurrence, en milieu iranien, c'est beaucoup plus probablement des ibex. Ouais. Chèvres sauvages. Et le vin pur arrive à ce niveau-là, au niveau de la ceinture. Puis quand on rajoute de l'eau, ça arrive ici, en haut du front. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux. Et vous voyez, au fond, le Kesra, c'est-à-dire le roi sassanide, effectivement, on a le personnage principal mis en valeur en train de tuer un sanglier et la scène de chasse qui se déploie tout autour. C'est ce qu'il y a de plus proche de l'objet qu'a décrit Abu Nuwas. Alors, bien sûr, on peut dire, Abu Nuwas écrit un siècle et demi après la fin de l'Empire sassanide, on ne peut pas exclure qu'à ce moment-là, il y a eu des usages détournés, hein, que ces objets qui étaient déjà des antiquités aient pu servir d'une manière plus profane que n'était leur usage premier. Bon, pour les grands plats, on s'accorde, tout le monde admet que la fonction probablement principale, c'est que ces plats servaient de cadeaux, qu'ils étaient remis en marque d'estime à des dignitaires iraniens, qui sont d'ailleurs parfois figurés avec le roi sur le plat, ou à des souverains étrangers. C'est-à-dire qu'ils auraient eu assez souvent la même fonction que les médailles et les cadeaux présidentiels dans les États modernes. Ce qui pourrait expliquer, au moins en partie, que la grande majorité des plats sassanides et centra-asiatiques trouvés dans des contextes qu'on arrive à identifier, ont été trouvés hors des frontières de l'Empire. Si ça servait avant tout de cadeaux diplomatiques, c'est normal. On les trouve, je l'ai dit, au Caucase, en Asie centrale et chez les peuples de l'Oural. Mais là, probablement, c'était pas des cadeaux diplomatiques directs. C'est des objets qui, à un moment, sont passés par un circuit commercial et on finit chez ces peuples de l'Oural qui avaient à vendre quoi ? Eh bien, ils avaient à vendre les fourrures et l'ambre. Et c'était la monnaie d'échange. Bien. On a une anecdote d'un historien arménien, Faustus de Byzance, qui écrit au 5e siècle, qui semble indiquer un statut hybride pour une coupe, à la fois coupe de banquet et marque d'estime. Il parle de Shapur II, le roi sassanide Shapur II. On va voir que c'est un des grands commanditaires de plats. Beaucoup de plats le représentent. Et Shapur II a fait des guerres contre les Arméniens et il a voulu honorer un adversaire arménien qui s'était emparé de son camp mais avait épargné le harem. Voilà. Il n'avait pas embarqué comme concubine les épouses de Shapur, il les avait rendus à leur maître. Et donc, pour témoigner son estime à ce général arménien, Chapourdeux commande une coupe qui le représente monté sur son cheval favori, et il boit dans cette coupe en présence de son armée. C'est-à-dire qu'en fait, il porte symboliquement un toast à ce général, et le plat sert à l'honorer. Alors, du côté, du coup, ça rappelle tout à fait une catégorie de plats qu'on a à Byzance, qu'on appelle les missoria, c'est-à-dire missoria, ce qui est envoyé. Ce sont des plats envoyés comme cadeau. Alors, on en a un exemplaire magnifique. Le plus connu, c'est le fameux plat de Théodose Ier, avec ses héritiers, un ici et un ici, et avec une scène mythologique en bas, dans le registre inférieur. Ce plat, en fait, on sait à qui il était destiné, puisqu'il porte une inscription qui indique à quel dignitaire il a été donné, et c'est pour l'anniversaire de l'avènement du roi. Alors, ce qui est intéressant ici, on voit apparaître un thème qui va nous occuper à propos de certains objets, c'est qu'il y a un dialogue avec les plats sassanides. Ceci est un plat probablement qui représente soit Kavad, soit Khosrow Ier, donc on est, disons, dans la première moitié du VIe siècle. Donc un siècle après le précédent. Et vous voyez, il l'imite. On a le roi trônant avec ses dignitaires, et en bas, dans un registre inférieur, une scène qui, en l'occurrence, est une scène de chasse, on voit très bien, il y a un dialogue entre ces plats. Alors, donc, ces plats qui servaient de cadeaux honorifiques, de cadeaux diplomatiques, avec l'image du roi, étaient des portraits officiels. Mais quand je dis portraits, ce n'est pas des portraits au sens où nous le comprenons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trait individuel dans les représentations de rois sassanides. Il y en a tout au début. C'est-à-dire que Ardashir sur ses monnaies, c'est vraiment probablement la tête d'Ardashir. Shapur Ier, probablement aussi, ça a l'air assez réaliste. Et puis après, ils ont plus ou moins tous la même tête. Bien. Mais ce qui les identifie, c'est la couronne. Je vais être amené à revenir là-dessus. Chaque roi sassanide, disons, presque chaque roi sassanide, avait une couronne individuelle. C'est ça qui permettait immédiatement de savoir quel roi avait commandé le plat. Et alors là, on a une anecdote magnifique, probablement fausse, mais quand même très significative, toujours trouvée par Kraczkowski. Vraiment, l'article de Kraczkowski, il faudrait le traduire, parce que Frédéric, tu devrais nous faire ça un de ces jours, dans le bulletin, parce que c'est vraiment remarquable. C'est une anecdote qui a été reproduite, en fait, dans une source arabe ultérieure. Shapur, alors on ne sait pas si c'est Shapur Ier ou Shapur II, parce que ils tendent parfois à être confondus l'un avec l'autre. Il va à Byzance, incognito, et il est avec des amis, et il pense boire incognito. Mais non, il se trahit. Il est reconnu par son portrait dans la coupe. C'est exactement Louis XVI à Varennes, reconnu par le fils de l'aubergiste qui a comparé avec les pièces de monnaie. Alors, une chose très importante à souligner, c'est que ces plats, beaucoup de ces plats portent des inscriptions. Mais en aucun cas, ces inscriptions ne sont la signature de l'artiste. Jamais. Les inscriptions renvoient toujours uniquement au propriétaire. Il est très rare, d'ailleurs, que ces propriétaires correspondent à des personnages qu'on peut identifier. Les exemples se comptent sur les doigts de la main. Ce plat-là, dont j'ai déjà parlé, est identifié au nom d'un personnage qui s'appelle Hormiz d'Ardashir, dont la généalogie est donnée, et on voit que c'est le petit-fils d'un dignitaire qui est mentionné dans la grande inscription de Shapur Ier. Et probablement, il devait être gouverneur en Bactriane. Ouais. Plus tard, moi, je n'en connais que deux, mais c'est post-sassanide. Il y a un plat, ou plutôt une cruche, qui est identifiée au nom d'un personnage qui s'appelle Burzenvarz, fils de Khosrow, que j'ai pu identifier avec un des derniers prétendants sassanides, réfugié, qui a fini à la cour de Chine. Et puis, au IXe siècle, on a un plat qui porte une inscription au nom du gouverneur du Tabaristan, l'Esparbed, un personnage de, disons, de tradition sassanide. C'est très, très peu. Dans la plupart des cas, les propriétaires ne sont pas des gens que nous pouvons identifier. Et parfois aussi, on s'aperçoit que le style de l'inscription est plus tardif que le style du plat lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le premier, ce n'est pas toujours le premier propriétaire. Alors, je dis tout de suite que, à propos d'un plat dont on va être amené à reparler, la grande coupe en or de Khosrow Ier qui est au cabinet des médailles, avec des incrustations de pierres semis de verrerie, il y a une inscription en arabe, Bismillah. Et on s'est posé beaucoup de la question, pourquoi est-ce qu'ils avaient inscrit Bismillah sur... Et c'est Samra Azarnouche qui a trouvé l'explication. On a écrit Bismillah pour que l'objet ne soit pas détruit. Parce qu'on n'a pas le droit de détruire un objet qui comporte le nom de Dieu, le nom d'Allah. Et donc, c'était une façon de protéger l'objet, voilà, d'éviter qu'il soit refondu. Oui, ces inscriptions sont d'une... disons, ne donnent pas des renseignements très évidents. Hein. Alors, en plus, quand on a le nom du propriétaire, on n'a pratiquement jamais son titre. Ce qui est parfois curieux, parce qu'ici, le Hormis d'Ardashir, petit-fils d'un bidarche, grand dignitaire de Shapur Ier, c'est évidemment pas Tartampion. C'est quelqu'un qui est gouverneur, qui est satrape, qui est bidarche, qui est quelque chose comme ça. On ne le dit pas. Probablement parce que l'objet est attaché à la personne, il n'est pas attaché à la fonction. Si le personnage perd sa fonction, ou bien en change, on ne peut pas le priver de l'objet. L'objet est attaché à la personne. Enfin, ce sont les suppositions que je suis amené à faire. Alors, pourquoi est-ce que l'artiste ne signe jamais? Il ne compte pas l'artiste. L'artiste, c'est un artisan. Même quand c'est un grand artiste, c'est un personnage inférieur. Et son travail apporte à l'objet une plus-value symbolique, mais aucune plus-value économique. C'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête. L'objet, c'est avant tout un capital mobilier à valeur garantie. Et ce qui confirme ça, c'est que quand le poids est indiqué, ou qu'on peut calculer le poids, on pèse l'objet, et on voit à combien de dirhams ça correspond en poids sassanide, on a presque toujours des chiffres ronds. Voilà, c'est-à-dire que très souvent, on voit très bien, les plats en moyenne représentent entre 100 et 135 dirhams, 400-500 grammes. Parfois, c'est plus, mais on voit presque toujours, on tombe sur des chiffres ronds. C'était avant tout un capital. Et on a au moins deux attestations textuelles qui le confirment. Dans le droit sassanide, il est indiqué qu'une coupe peut être mise en gage. Voilà, donc ça représente une valeur fixe. Et par ailleurs, on sait aussi qu'au moment de la conquête, à l'époque omeyyade, les taxes au gouverneur pouvaient être payées en objets d'or ou d'argent, et pas en pièces de monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est le poids du métal. Bon, évidemment, l'image compte aussi. Mais on n'est pas dans le registre économique. On est dans le registre symbolique. Alors, pour ce qu'il faut également donc, souligner, c'est que, et ça, j'ai été amené déjà à y faire allusion, ces vases, tant d'Iran que d'Asie centrale, ont continué à avoir une vie après être sortis de leur premier usage. On a vu l'exemple à Bagdad sous les Abbassides, avec ces plats ces plats qui ont servi de coupe à boire, ce qui n'avait pas forcément été le cas au début. On a une belle attestation dans la Chine du Nord à l'époque de la dynastie des Wei, 4e, 6e siècle, une dynastie d'origine turque, nomade. Et c'est très important parce qu'on sait maintenant, on trouve maintenant beaucoup de plats sassanides et d'Asie centrale dans les tombes des Wei, à Datong, leur première capitale au nord de Pékin. On a un texte sur un prince, Yuan Chen, c'est Harper qui a trouvé ça dans son dernier livre. On dit qu'il exposait dans son palais de Luoyang plus de 100 vases en or et jarres en argent, et dans les mêmes matériaux, à peu près la même quantité de bols, de récipients sur pied, d'assiettes et de boîtes. Parmi les autres vases à boire se trouvaient des vingtaines de bols en quartz, des coupes en agate, des gobelets en rubis. Et le texte chinois précise, un si splendide artisanat n'existait pas en Chine. Tout venait des pays d'Occident. Et ce texte est magnifiquement confirmé par une découverte toute récente. Certains ont peut-être vu, l'ont peut-être vu. Voilà, c'est paru dans une obscure publication chinoise. En fait, ça s'est retrouvé dans une exposition près de Shanghai au musée de la soie Hangzhou. C'est une coupe trouvée dans une tombe des Wei, d'un aristocrate Wei à Datong. En fait, alors, ce qu'il faut, il faut tout de suite voir une chose, c'est plusieurs choses. Le sujet purement classique, Dionysos avec une coupe et Héraclès avec sa massue qui se promènent sur un char, lequel est tiré par un satyre, un silène qui boit dans une corne à boire. Donc, voilà. Sujet dionysiaque. Visiblement, ça a été fabriqué très probablement au Gandhara, Inde du Nord-Ouest, où c'était encore, cette tradition était encore vivante. Alors, en réalité, c'est un sujet connu dans l'art grec et romain. Dionysos et Héraclès se sont lancés un défi d'ivrogne. C'est à qui tiendrait le mieux la boisson. Et donc, ils sont en train de boire tous les deux, chacun sa coupe à la main, des pampres autour, etc. Mais alors, très intéressant, c'est en or, en feuille d'or. Et ça, c'est pas fonctionnel, on voit très bien que c'est un peu mal fichu, c'est un moulage. Ça a été moulé sur un objet qui probablement était en argent. Donc, ce qui compte, c'est l'or. Et, comme par hasard, le poids correspond exactement à un chiffre rond dans l'unité de poids qui avait cours au Gandhara. Donc, ça nous confirme que des copies de ces objets pouvaient, à la même époque ou après, continuer à circuler avec une valeur à la fois symbolique et économique. En l'occurrence, je pense qu'un objet comme ça, ça ne peut être qu'un cadeau diplomatique. Je suis persuadé que c'est un roi des Eftalites, qui à cette époque domine l'Inde du Nord, qui a envoyé ce plat à un souverain des Wei, à Datong. Dans les tombes, j'ai déjà parlé des tombes de l'Oural, où souvent destination ultime d'un grand nombre de ces plats, et puis c'est de là que vient la plus grande partie de la collection de l'Ermitage. Ils étaient, là aussi, il y a une sorte de resémantisation. Un certain nombre de ces plats portent des graffitis qui n'ont rien à voir avec les sujets originels. Ça montre des chamans, des divinités locales, etc. Il y avait une réutilisation. Et cette réutilisation, alors là, c'est vraiment ce qui est le plus surprenant, ça a parfois duré jusqu'à nos jours. Ce qui me permet de le dire, c'est que depuis la chute de l'URSS, il y a des objets qui étaient cachés dans des sanctuaires de peuples ouraliens, les Mans, les Khants, des peuples qui pratiquent beaucoup le chamanisme. Ils ont ce qu'on appelle des enclos sacrés. À l'époque soviétique, disons, c'était semi-clandestin. Et on voit maintenant que des objets qui se trouvaient là ressortent parce que le fils du dernier prêtre est un ivrogne, il a besoin d'argent et donc il vend l'attirail du grand-père. Et ça arrive à l'Ermitage. Et ça a donné. Certains de ces objets ont été publiés par Marchak. On a notamment un plat que je montrerai plus tard, extraordinaire, qui est un plat chrétien, qui montre David, Salomon et la reine de Saba. Ce plat a terminé comme objet rituel au XXe siècle chez des chamans ou des prêtres de l'Oural. Alors, pour conclure cette introduction, tiens. On va ensuite aborder la typologie, l'étude systématique des différentes écoles et des sujets représentés, en partant évidemment d'exemplaires précis. Pour conclure cette introduction, il faut surtout garder à l'esprit une chose. Ce qui nous est parvenu, ça n'est qu'une toute petite part de ce qui a existé. On n'a jamais pu identifier deux objets issus de la même main. Éventuellement, des ateliers, le même atelier, et encore, on n'en est pas sûr. Donc, en fait, les historiens d'art ne vont pas parler d'artistes, parce que l'artiste, comme je vous ai dit, leurs noms sont perdus à jamais. Ils ne vont même pas parler d'ateliers, on va parler d'écoles. On sait que certains objets ont pu en inspirer d'autres, parce qu'on voit qu'il y a des objets qui s'imitent d'un siècle à l'autre, on a un objet A, on a un objet B, on voit que l'objet B est inspiré par l'objet A, ça ne veut pas dire qu'il est copié sur l'objet A qu'on a. Ça veut dire qu'il y avait un ensemble auquel appartenait l'objet A, et puis un ou deux siècles plus tard, il y a un ensemble auquel appartient l'objet B, bon, et qu'il y a eu un contact entre les deux. Si on essaie de quantifier, ben on a essayé de le faire quand on a déposé notre projet d'Aener. Pour les plats d'argent sassanides, je parle des plats d'argent à scène royale. Actuellement, on pourrait dire qu'il y en a plus d'une centaine. Dans le catalogue de Harper, dans le livre de Harper, je crois qu'on a peut-être 25 ou 30 objets illustrés. Ça vous donne une idée de ce qui n'est pas rentré dans les grands catalogues. Et de l'explosion du répertoire depuis 10-20 ans, maintenant qu'on a les fouilles clandestines. Alors, il faut aussi se rappeler, garder à l'esprit, que, à part les ouvrages, les catalogues, les vitrines de musées restent encombrées par défaut, ou des imitations tardives. À part les auteurs vraiment très rigoureux, et je dis, bon, l'Ermitage, Marchak et Harper, il faut toujours aller vérifier les critères sur lesquels on a authentifié l'objet. Je termine avec une petite anecdote personnelle, c'est qu'il y a de cela une quarantaine d'années, je visitais la galerie iranienne du British Museum avec un ami historien d'art qui était ancien conservateur du département des antiquités orientales, Ref Pinder Wilson, connu en Iran parce qu'il a fait le catalogue de la céramique d'Ardabil, un grand historien d'art que j'avais connu à Kaboul. Et on voit les plats sassanides. Il y en a. Je lui dis, mais Ref, ce plat, enfin, c'est complètement Qadjar. Les personnages étaient en fait des Qadjars. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Il me dit, nous le savons tous, mais tant que C'est un trustee du British Museum qui en a fait cadeau. Et tant qu'il est vivant, on ne veut pas lui faire de la peine, on garde l'objet dans la vitrine. Je suis revenu 30 ans après, l'objet était toujours là. Voilà, j'ai terminé pour cette semaine. Nous allons donc maintenant aborder le répertoire lui-même en détail.